De retour après une pause d'environ...
Ah non.
Deux vies.
Ouais.
Je me souviens, juste avant qu'on arrête, on parlait de à quel point Brigitte Bardot était bonne.
C'était déjà à ce temps-là.
Ah, ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Vous avez écouté Comedy News Weekly Podcast. Et, est-ce que... avec Anthony Mirelli. At Anthony Mirelli sur Twitter. Est-ce que toi, si t'as fantasmé assez longtemps sur une fille, tu coucherais avec, peu importe... la situation actuelle, parce que tu coucherais plus avec le souvenir qu'avec le présent.
J'ai pas compris.
Pamela Anderson, si aujourd'hui, oui. Elle doit avoir le corps quelque chose comme 7-8 cm en dessous du squelette.
Oui.
On est d'accord pour dire que...
Oui.
Mais moi, j'hésiterais pas une demi-seconde à coucher avec...
Ne fût-ce que pour faire plaisir à mon jeune moi.
Exactement. Je veux dire, ado...
Je me dois bien ça.
C'est exactement... Je dois bien ça à ado Dan, quoi.
Voilà.
Donc voilà, c'était juste ça le point pour commencer.
Ça m'a fait penser à un truc, Talip, on en parle souvent, un jeune humoriste ici à Bruxelles.
Ah oui.
C'est quelque chose sur Facebook hier qui m'a fait beaucoup rire. C'est qu'il dit, je suis en train de me hanter moi-même quand j'étais jeune. Il dit, il était con ce Talip quand il était jeune, il savait pas que c'était moi toutes ses voix.
Lui, Talip Saritas, honnêtement, suivez-le. Vous allez pas comprendre deux fois sur trois ce qui se passe.
Mais c'est drôle.
Et je lui dis, t'étais un des rares humoristes où... Tu me fais rire des fois et je comprends pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe, puis des fois je rigole quand
c'est
même.
C'est un bon point, parce que du coup t'es intéressé. C'est dit...
À fond.
T'as envie de revenir voir, quoi.
Donc voilà, il est assez fascinant. Sinon, comment ça se... Là, faut qu'on parle de plein de choses.
Louis C.K.
Donc il y aura pas beaucoup. Voilà, pas faire semblant.
Non.
Alors, il y aura pas un milliard de digressions cette semaine. On n'a pas le temps. La farce, c'est sérieux. C'est le nouveau slogan du podcast.
La farce, c'est sérieux. Des badges et tout ça.
Ouais. Et puis, vu qu'on est diffusé en France, ils vont faire une espèce de jeu de mots. Donc, c'est la farce sérieux. Ils vont faire ça en un mot. Et ça va être le nom des produits dérivés. Parce qu'il va y avoir quelques produits dérivés. On parle de relancer le coussin péteur.
Et tes couettes et tout ça, ça en est où?
Ben, je sais pas, mais ça suit pas au marketing. Je sais pas, le département produits dérivés chez Golden Moustache, si tu veux mon avis, s'il n'y en avait pas, ça serait pas mal la même chose. T'envoies des emails, genre à couverture chauffante à goldenmoustache.gov.eu.fr. Asti, jamais une réponse!
Moi, j'ai reçu un message comme quoi l'adresse n'était pas valable, mais tu voyais bien que c'était un mec qui avait tapé le mail, c'était pas une réponse automatique.
Non, mais il
ce mail n'existe pas.
Et puis, le pire, c'est quand il te rajoute un MP3 de gars qui siffle pour faire plus subtil. Tu fais « Jesus, les boys! » Réveillez-vous!
Les boys. Bon, bref, Louis C.K.
Ouais. Déjà, si vous aviez des billets pour son dernier spectacle au Madison Square Garden...
C'est foutu.
C'est con. Déjà parce que le podcast est diffusé après la date du dernier truc. Et surtout, il a annulé pour cause de temps tempête de neige. Et le mail qu'il envoie, il envoie toujours des emails un peu personnalisés.
C'est super drôle.
Était vraiment drôle en disant « On parle d'une tempête historique. » Bon, je sais pas comment quelque chose qui n'est pas encore arrivé peut déjà être historique, mais qui suis-je pour juger la portée historique des événements futurs? Et il rajoute que historique partout dans son truc.
Et qui dit qu'il va être chez Letterman, donc normalement quand le podcast sera diffusé, la vidéo sera déjà en ligne.
Oui.
Et il dit « Vous pourrez crier à votre télé et lancer des trucs. Pour vous venger. »
Et il dit « Pour tous ceux qui ont déjà eu organisé quelque chose, ils avaient réservé une salle et ils ont dû annuler. » Tu sais, le stress que vous avez d'aller perdre le deposit pour votre salle. Imaginez le deposit pour le Madison Square Jesus Christening Garden.
N'empêche, il a quand même battu leur record parce qu'il avait fait 3 shows en un mois et c'est leur record, je pense. Je crois qu'avant lui, c'est Andrew Dice Clay qui l'avait fait 2 fois.
Ah ouais?
Et il allait battre encore leur record, son propre record avec le 4e, mais là, c'est foutu.
D'après moi, s'il veut refaire un show Madison Square Garden, il va encore avoir des tickets qui vont se vendre. Donc d'ailleurs, t'en parles parce que son spectacle, justement, son special va sortir bientôt. Puis là, on a déjà du matériel.
Là, bientôt. Il s'appelle Life at the Comedy Store et il a publié une vidéo hier.
Lundi, ouais.
De 4 minutes, un petit extrait de lui dans un avion. J'ai l'impression qu'il adore ces histoires d'avion.
C'est comme il parle de ce qu'ils connaissent, puis ces comics-là, ils passent leur vie à tourner dans le pays, donc ils passent leur vie dans les avions. Donc forcément, c'est plus facile de faire des observations sur ce que tu vois. Le truc est bien, ce qui est intéressant sur la vidéo aussi, c'est qu'il y a un tag. C'est une vidéo qui a été mise par le compte de Louis C.K. Et il y a un petit tag dessus qui dit « Achetez le special au complet pour 5$ sur louisck.net ». Moi, évidemment, j'ai cliqué dessus frénétiquement. Le lien ne marchait pas encore. Je suis allé sur louisck.net. Il l'a pas encore, mais s'il a mis la vidéo et qu'il y a déjà la pub, c'est que ça doit être assez imminent.
C'est maintenant, là. C'est, à mon avis, cette semaine.
Ouais, parce que genre, maintenant, si au moment où on enregistre le podcast, tu me dis qu'il est déjà disponible, je suis désolé, mais le podcast
si
va être
si
vraiment court. Si je reçois la notification,
on va regarder le spécial et on va arrêter d'enregistrer.
Exactement, il va y avoir une petite pause.
Et voilà, et ça a l'air apparemment très drôle. J'ai lu des articles de gens qui ont été le voir,
ouais.
Notamment des gens de chez Uprox, et ils ont dit qu'il est au top de sa forme. Et c'est un mélange de tout ce qui s'est fait. Tu sais, ils ont expliqué en fait son évolution. Au début, ils faisaient des blagues un peu faciles,
ouais, ouais.
Bruit, etc. Et d'ici, il a réussi en un gros sketch à faire des bruits, parler de pipi caca, de ses gosses et des enfants et de ce qui l'énerve. Et c'est un espèce de mash-up de tout ce qu'il a fait dans sa carrière, son évolution, quoi.
Tu le vois, il est tellement apprécié. Et moi, je trouve une des plus belles leçons, c'est un jour, j'avais une discussion avec quelqu'un. Il disait que la part du humoriste que j'aimais bien avait beaucoup d'énergie, sauf Louis C.K. Et le gars m'avait dit, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as vu l'énergie qu'il déploie? Il est très calme, mais l'intensité qu'il y a dans ses trucs, l'énergie, il arrive à faire des pauses. Et là, c'est sûr que son public, il arrive, il crie déjà. Et t'avais donc sa prémisse, un truc dans les avions. Et au niveau de la prémisse, t'as déjà les gens qui sont en train de rigoler. Mais sa capacité à maintenir une tension tout au long des 4 minutes, fantastique.
C'est avec toi qu'on a parlé de ça, ou je sais plus si ça s'appliquait à lui, mais c'est le fait que s'il faisait la même vanne sans s'énerver, elle passait moins bien.
Non, c'est pas ensemble qu'on a parlé de ça.
C'est dans... Non, parce que j'ai revu Talking Funny, en fait. Donc, c'était un show d'HBO avec Ricky Gervais, Jerry Seinfeld, Chris Rock et Louis C.K. Et il expliquait que il y a des vannes où s'il s'énervait pas, elle passait moins bien, quoi.
Ce qui serait normal, tout est une question de delivery. Il y a une façon de faire qui va être plus drôle que les autres, puis une fois que tu la trouves, tu la gardes. Mais c'est dans la vie de tous les jours, quand tu vois quelqu'un... Tu sais, un des trucs les plus drôles, moi, je trouve, dans la vie, c'est voir quelqu'un s'énerver dans la bagnole à côté. Parce que t'as pas le son et tu vois juste quelqu'un en train de s'énerver à fond. Moi, j'imagine souvent avec une voix pleine d'hélium, parce que j'avoue que ça me ferait. Mais hier, justement, on a vu quelqu'un qui a essayé de faire une manœuvre, mais qui faisait aucun sens et qui arrivait pas à s'imposer. Donc, elle avançait sa bagnole, genre centimètre par centimètre, jusqu'à bloquer des voix. Enfin bref, c'était fantastique comme sketch. Et ça commence à s'énerver, mais tu vois qu'elle klaxonnait et agitait les bras, mais... quasiment comme dans un dessin animé, on allait bientôt avoir de la buée sur les villes. Et j'étais avec mon frère à ce moment-là. Et il m'a rappelé un truc que j'ai déjà entendu il y a longtemps, mais il disait que Charlie Chaplin disait que la comédie, c'était un drame avec de la distance. Et tu filmes quelqu'un qui s'énerve de près, c'est un drame. Tu le filmes de super loin, c'est une comédie. Quoi.
C'est pas faux.
Et je dis, j'allais faire un compliment sur Charlie Chaplin comme si ça avait besoin d'être établi qu'il connaissait la comédie.
Mais c'est qui? Moi, je connais pas.
Un dude qui est mort.
Mais je me suis retapé plein de sketchs. En fait, j'ai revu tous les specials de Louis C.K. parce que t'en regardes un, t'en regardes 15. Et j'ai revu des vieux machins qui datent de 96 où c'est quand même les roues, quoi, tu vois.
Mais c'était un petit maigrelet à l'époque.
Ouais,
hein.
Ouais,
il a passé de tout maigre avec des cheveux et en costard, et plus il enlevait les trucs
costard trop grand,
c'est ça, finir en t-shirt. Mais c'était un peu la mode à cette époque-là.
Ah, oui,
avec les épaulettes,
ouais,
et puis limite les manches retroussées du
et
costard.
Et tu sens que c'est sympa, mais c'est pas encore poussé à fond. Il avait pas encore trouvé son style,
et
quoi.
C'est tellement agréable pour n'importe qui aime faire de la comédie. Checkez toujours les débuts des gens que vous aimez, parce que une fois que tu regardes quelqu'un qui réussit à fond, c'est tellement parfait. Et souvent, les gens vont regarder le contenu en disant « Ah, mais moi aussi, j'ai une prémisse là-dessus, j'ai un truc là-dessus, j'ai un truc là-dessus, j'ai un truc là-dessus. Comment ça fait que lui, ça marche plus? » C'est pas tout le temps en regardant le résultat final, mais check, il y a 15-20 ans, il était déjà bon. Et qu'est-ce qui fait que malgré le fait qu'il y a déjà des gags vraiment corrects, t'as aucun... Il n'y a rien qui te dit, il faut absolument que je retourne le voir. Quand il passe, je vais acheter des tickets ou quoi que ce soit. Et c'est la maîtrise, c'est le zoomer in. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose d'intéressant quand j'étais à Montreux. Si je résume un peu la pensée, c'est que la comédie, au final, c'est comme les points au bowling. Je sais pas s'il y a des fans de bowling, mais en gros, bowling, si tu fais un strike, ça vaut 10. Mais si tu les accumules, t'as 10 carreaux plus les espèces de deux bonus, mais ça fait 300 points au total. Et dis, le problème avec quelqu'un qui tient absolument à garder une vanne qui marche moyen, parce qu'il y en a deux autres qui marchent après, t'as pas juste loupé une vanne, t'as fait contrôle alt delete, t'as perdu les gens et tu vas remettre 4, 5, 6 vannes. Avoir 9 vannes de suite qui fonctionnent est mieux qu'avoir 20 vannes avec 3 trous dedans, à peu de choses près.
Ouais.
Et c'est vrai que quand tu regardes le truc, tu te dis pas, ah tiens, là c'est raté, là c'est moi.
C'est pour ça que c'est assez court au final.
Mais il hésite jamais à sucrer des trucs. Quand tu regardes le pourcentage.
C'est pas très long parce que dans Talking Funny, Chris Rock il disait qu'il allait jusqu'à 1h40, 1h50 et. Il doit sûrement y avoir un peu plus de enfin, déchets, entre guillemets.
Mais les gars aussi filment 1h40, 1h50 parce qu'en live c'est pas le même feeling. Mais entre une vanne qui passe en live et une vanne qui passe en. C'est déjà vu des humoristes que vous avez trouvé en live, vous avez trouvé drôle, puis vous checkez une vidéo, puis vous faites.
Ben, ils en parlent aussi. En tout cas, Ricky Gervais et Louis C.K. le disent, c'est que pour la diffusion, ils coupent certaines vannes.
Blindé quand tu regardes jusqu'à la moitié, hein. Qu'est-ce qui marche? Point. Ils sont. Et j'entendais d'ailleurs, et on va revenir à Louis C.K. après parce qu'il y a, il y a autre chose à dire sur lui, mais je vais juste retrouver son nom à la fille exactement pour vous conseiller le podcast. J'ai réentendu Jay Leno en podcast récemment qui avait dit pas mal de choses qu'il avait déjà dites à Jay Moore. Jay Moore, mais attends, la fille s'appelle. Et elle vient d'avoir un special sur Netflix.
Ah, Isla Chesinger, machin comme ça. Je connais pas et je vais le regarder. Ça
The Truth and. C'est Eliza, c'est ça. E-L-I-Z-A. Ouais. Son podcast s'appelle The Truth and Eliza. Et Jay Leno est dedans et il donne tellement plein de bons conseils. Il dit que.
Mais c'est un technicien, le mec.
De malade. Et puis, la plupart des gens qui ne l'aimaient pas dans le Tonight Show, tous ceux que j'ai entendu qui l'ont vu en live, ils font ouais, non, mais c'est. Lui, il kill toujours. Point, peu importe où il va, c'est lui qui domine. Et dit, le problème avec les humoristes, c'est que c'est comme les rivières. Ils choisissent le path of least resistance, toujours là où il y a le moins de résistance. Et ils sont toujours prêts à dire plein de choses, alors que si quelque chose ne fonctionne pas, il y a une raison principale, c'est « it's not funny enough ». C'est pas est-ce que c'est drôle ou c'est pas drôle, c'est est-ce que c'est suffisamment drôle. Il y a plein de gens qui gardent des trucs drôles qui sont pas assez drôles et c'est pour ça que 5 ans après ils sont au même endroit. Il dit ta comédie, c'est ça qui te fait manger, c'est ça qui te fait vivre, c'est ça qui te rend heureux. Ça doit être le truc le plus important. Il dit moi des fois je m'engueulais avec des gens, je considérais que j'avais raison, mais je les appelais avant de monter on stage en disant que je m'excusais, c'était de ma faute parce que ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est de faire un vrai bon set.
Il a raison, mais
Et puis respecté par tous les humoristes que vous aimez, à peu de choses près. À part peut-être Letterman puis Conan.
Même pas, parce que Letterman avait du respect pour lui dans Comedians in Cars, où ils ont parlé de l'un de l'autre.
Ouais, il dit qu'il aime pas ce qu'il a fait, mais il a beaucoup de respect pour le. Voilà. Et t'as raison, t'as fait. Et quand tu l'écoutes, c'est le. Moi, c'est le. Je pense les meilleurs. Chez les Américains, le meilleur conseil que j'ai entendu sur la comédie, c'est.
Il faudrait que j'écoute et il faudrait que je regarde le spécial de cette fille-là parce qu'elle en a deux déjà sur Netflix.
Je l'ai entendu moi en interview chez Kevin and Bean. Je parle souvent ici de cette émission-là. Ouais. Et je sais pas. Honnêtement,
en tout cas, comme c'est vendu, ça, vend un, ça joue un peu sur la bonasse qui fait des blagues un peu cracra. Après, j'en sais rien.
Ça elle avait été dans The Last Comic Standing.
Ouais,
et puis, elle a souvent été la seule fille, justement, dans plein de line-up.
Et ça s'appelle Freezing Hot.
Freezing Hot.
Le dernier.
Et il est en homepage de Netflix, normalement.
Ah, ouais.
Donc, ouais. Donc, avant pour ce truc-là. Donc, je vais juste faire une parenthèse sur Jay Leno. Donc, vraiment, The Truth and Eliza. Fantastique.
Je vais poster ça, je vais l'écouter d'ailleurs. Et pour Louis C.K., je crois que je vais faire une mini playlist YouTube, je foutrai ça sur la page Golden Moustache, parce que j'ai vu la blinde vidéo des trucs, j'avais jamais entendu, des passages. J'ai vu sa demi-heure, sa première demi-heure sur HBO, j'ai vu la blinde, plein de trucs que j'avais pas vu.
Il y a des lives qui sont intéressants. Et souvent, j'étais Opie et Anthony. Ben maintenant, il n'y a plus Opie parce qu'Opie s'est fait virer pour commentaires un peu bizarres.
On en a parlé d'ailleurs.
Mais il est souvent en radio et si vous êtes vraiment fan, vous pouvez rechecker des trucs et tant qu'à faire, si vous voulez pousser plus loin, au début, quand ça commençait à marcher un peu pour lui, il prenait l'argent qu'il faisait avec du stand-up et il finançait des courts-métrages et donc il y a sur son site
il y a le film mais les courts-métrages, je crois qu'on peut les trouver sur YouTube, mais
sur iTunes, très bizarre. Sur YouTube, ouais, c'est très weird. Mais, excuse-moi, je viens de repenser, on parle de mini-séquences. Je viens de repenser. C'est ce que j'aime aussi dans la série, c'est que c'est assez déprimant, mais t'as plein de petits extraits qu'on peut ressortir. Tu parles de place YouTube, remets la poupée, si tu veux bien, la poupée qu'il offre à sa fille, puis qu'il cherche les yeux sont perdus dedans. Ce truc-là m'a fait rire, mais aujourd'hui, j'y repense, ça me fait encore rire. Et le truc que je suis en train de rire, c'est... À un moment donné, il score un petit rôle dans un policier avec Matthew Broderick. Et il doit juste... Genre... je crois que Broderick arrive, il y a un policier devant son appart de mémoire, puis il doit juste lui dire que son père est mort. Puis genre, Broderick arrive et fait « What's happening? » Puis lui, il fait... Your father's dead. Puis là, Broderick, il crie genre, coupé! Qu'est-ce que tu dis là? Il dit, ben quoi? Il faut pas que tu dises ça comme ça. Et il y a un enchaînement de 9-10 façons de le faire.
Je me
dont
rappelle.
Une, il sourit en pointant ça. Your father's dead!
Et il paraît que la nouvelle saison sera un peu plus comme ça.
Ben oui, il a fait une longue interview en disant que ça a le plus laugh-centric.
Ouais.
Donc, tout le monde...
Et plus court aussi. Je crois que c'est une histoire de 8 épisodes.
OK, je sais pas, mais ça va être à partir du début avril? 10, 12,
j'ai
10,
la date 12. Quelque part. En attendant, je peux déjà dire que son projet de série avec Galifianakis a été pris. Et,
Holy cow.
Ouais.
Ça serait une bonne année pour la comédie?
Oula, je crois que 2015, ça sent bon.
Ça va quand même être le truc... Si c'est pas, et ça se peut que ce soit pas drôle, mais si c'est pas drôle, ça va quand même être... C'est comme quand Galifianakis avait fait le film avec Will Ferrell, The Campaign. Moi, j'avais vu au cinéma, puis j'avais trouvé ça vraiment moyen.
C'est très moyen, mais il y a quand même des bons moments.
Ouais, mais je m'attendais...
la salle de dîner avec les gosses, moi, j'ai trouvé ça hilarant.
Mais je m'attendais tellement... Genre, les films de Will Ferrell me font toujours rire, genre fort, plusieurs fois, et celui de Galifianakis aussi, mais je pensais qu'il allait se multiplier, et ça a juste été comédie correcte.
Ouais, oui, puis il met quand même une pêche à un bébé.
Oui, ça c'est. Puis après ça, il se plaint en disant. Donc en gros, c'est. Il se bat pour l'embrasser un bébé. En se battant, finalement, ça fait en sorte que Will Ferrell vient pour frapper Galifianakis. Galifianakis bouge, il punch le bébé d'en face. Et la scène d'après, il est à son bureau avec de la glace sur les jointures en disant: mais il n'y a personne qui a pensé à me demander comment allait ma main.
T'as pas vu? Ici, il tourne un film, je ne sais pas c'est quoi. Mais. Il devait tourner une scène où il lançait un ballon dans la tête d'une pom-pom girl. Et du coup, il y a des vines où tu le vois courir comme un malade sur un terrain de basket. Il prend une balle.
Et il explose comme une vieille merde.
Et dans les articles, c'est genre, vous inquiétez pas, c'est pour un film, tu vois. Mais putain, il la tue, quoi. La meuf, elle tombe par terre. Et pour en finir avec Louis C.K., il produit le show de Pamela Adlon. Donc Pamela, on l'a déjà vu plusieurs fois dans la série. Elle ouais. est executive producer de la série. C'était sa femme dans Lucky Louis. Elle aura un show sur une actrice qui éduque ses trois enfants. À mon avis, ça va être un petit peu autobiographique aussi.
Mère célibataire.
Comment il s'appelle ? Louis C.K. va produire et réaliser le premier épisode. Et FX sont sur une très bonne lancée, je pense.
Ben oui, il y avait chaque chaîne qui s'adresse à la presse dernièrement. Et le boss de FX a dit, en gros, c'est pas compliqué. Au niveau de la qualité, maintenant, c'est HBO, puis c'est FX, puis les autres sont loin derrière. Ce qui peut avoir l'air un peu prétentieux, mais t'avais des études qualitatives qui montraient que c'était vraiment, genre, blindé vrai, de loin, loin, loin meilleur. Et il dit, c'est, avoir un ou deux succès, c'est une chose, mais quand tu regardes les succès qu'on enchaîne depuis un bout de temps, et c'est vrai que quand tu fais la liste de ce qu'il y a sur FX, tu te fais, bah ouais. Ouais, c'est.
Ouais, moi, je perds pas mon temps avec d'autres séries, en fait. je le dis à chaque fois, mais à part quelques sitcoms sur des networks, genre Seinfeld.
Ouais. Bienvenue en 1991.
Eh ben, viens, parce que Brigitte Bardot est encore bonne. Non, mais à part les Simpsons ou Brooklyn Nine-Nine, le reste, il faut pas perdre son temps. Quoi.
Moi, j'aime encore bien, j'ai dit Modern Family et y a Parks and Rec, qui en général est assez.
Ouais, ouais, voilà, mais c'est des rares exemples de séries. Ouais.
Tu sais que j'ai commencé à regarder, j'avais checké juste des épisodes plic-ploc, j'ai commencé
Parks?
À regarder non j'ai pas encore Parks et Veep, j'ai toujours pas regardé, mais
Veep,
on m'a dit
magnifique.
Mais il faut apparemment Veep, c'est ce que les dernières saisons, c'était un des trucs les plus drôles en télé. J'ai commencé sur Netflix à regarder la première saison de Big Bang Theory. Et man, je sais qu'on en parle, je sais que toi tu détestes, mais il y a plein de trucs qui sont c'est un peu hacky, mais tu as des vraiment très bonnes punchlines. Moi je ris genre, haha, en moyenne 2-3 fois par épisode, j'ai un vrai rire, un truc qui peut vraiment rire tout fort. Hein.
Débrouille-toi avec ça, mon vieux.
By the way, si vous entendez un peu du bruit pendant le podcast, mon chien est un peu malade, je dois aller à l'hôpital avec, comme ça c'est, vous demandez un peu ce qui se passe, et on l'ignore complètement, il n'est pas en train d'être décédé à côté de moi, et c'est horrible parce que je dois aller faire des tests, et je ne savais pas, c'est un prélèvement alvéopulmonaire, bref, ils foutent de l'eau dans les poumons, après ça ils enlèvent l'eau, puis ils analysent ce qui se passe, et je me dis, j'aimerais, les chiens ont tellement de la chance d'avoir aucune idée de ce qui va se passer, puis aucun souvenir, aucun, une fois que ça va être fini. Moi, si je sais qu'on va mettre de l'eau dans les poumons pendant genre un mois, je sais pas, je me cache. Lui, on a rien à foutre, il est tout heureux, tu vois.
Il a l'air d'être bien, ça va.
Il est bien.
On continue avec les artistes qu'on aime bien, parce qu'il y a un paquet là de okay. trucs qui arrivent.
Est-ce que tu vas parler de la commande de Amazon à un certain réalisateur de légende?
J'ai dit donc les artistes qu'on aime bien.
Mais le, t'aimes pas
Woody Allen?
Ouais.
Ah, j'ai jamais aimé Woody Allen.
T'es sérieux, mec?
Non. Enfin oui. Mais sérieux.
Pourquoi t'as tort?
Ah, ça c'est une de mes qualités. Non, j'accroche vraiment pas à Woody Allen. Même les vieux films, je...
Genre Annie Hall puis Manhattan?
Non.
T'es sérieux?
Manhattan, ça va.
Je pensais pas que c'était possible. Mais je dis, y a pas une ligne qui est un déchet dans Manhattan.
On a déjà parlé plein de fois, tu sais.
Mais j'essaie d'oublier. C'est le post-choc post-traumatique.
Et pourtant, j'ai vu quasiment tous ces films. J'accroche vraiment pas.
T'es sérieux?
Voilà, donc sa série, tant mieux pour lui. La réponse qu'il a donnée en conférence de presse était absolument énorme.
En disant, ils m'ont dit ça. En gros, Amazon a commandé une série complète sitcom à Louis C.K., pas Louis C.K., à Woody Allen. C'est assez facile de faire l'amalgame entre les deux.
Retiens, il y en a un qui est drôle, l'autre pas.
Et il dit, en gros, je sais toujours pas ce que je vais faire. Et c'est probablement que ce genre d'annonce-là que le boss devrait regretter sa décision. D'après moi, il regrette pas. Tu sais, quand tu penses, il s'avait dit il y a 15 ans que Amazon allait gagner des trophées pour des séries.
Et Netflix, ils ont des super séries, Amazon aussi. Hein.
Oui, mais c'est ça. Rarement, mais je veux dire, mais Netflix, c'est une plateforme qui distribue des séries télé. Ils font des séries télé. Il y a, tu sais. Oui, c'est nouveau.
Pas très longtemps.
Mais je veux dire, c'est nouveau, mais il y a une certaine logique. Mais Amazon, je veux dire, c'est eux qui t'envoient tes cartouches d'encre. Puis ils vont produire un truc de Woody Allen.
Et maintenant, ils vont faire des films et ils les sortiront au cinéma et en même temps sur leur site.
Ouais.
C'est parfait.
Mais c'est fantastique.
C'est ça le futur. C'est pas les overboard et tout ça. J'arrête pas de le dire à tous les gens que je croise dans la rue. C'est pour ça qu'on a fait une longue trêve parce que j'ai été interné. Vraiment, je parlais beaucoup trop fort.
Le fait que tu cries aussi.
Ouais.
En regardant en direction opposée des gens à qui tu parles.
C'était pas mon avantage. Mais c'est génial, quoi.
Ça veut dire que n'importe quelle entreprise qui fait un peu de pognon pourra devenir une plateforme qui distribue du contenu de qualité.
Ouais.
T'imagines, Phil?
Ouais.
Le nombre de séries sur des pharmaciens que Bayer va nous produire.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui fait de l'argent alors en Belgique.
En Belgique? Albert Frère?
Ouais. Tu crois qu'on pourrait aller le voir?
Monsieur Frère.
Il vient de Charleroi comme moi, Albert Frère.
Bah oui, on avait une idée. Vous nous donnez du pognon. Comme on le voit dans le PowerPoint, gars, ça c'est nous. Ça ici, change la slide, Anthony.
Une flèche.
Ça c'est vous. Attention, là il va une animation. Oui, voilà, ça se finit en pixel. Voilà, c'est un fondu pixel. On revient. Oui, c'est ça. C'est un flashback. C'est comme dans Inception. On revient à la première slide. C'est Guy Ritchie qui a réalisé notre présentation PowerPoint. Et voilà. Et là, maintenant, oui, les deux jambes de notre bonhomme, tu vois, ces deux dessins superposés, notre bonhomme avance, s'approche vers vous.
Et il a deux sacs d'argent avec des signes dollars.
Mais non, ils sont vides. Et là, il s'approche de vous. Voilà, on connecte un sur un bras, l'autre sur l'autre bras. Voilà, il y a une éclair qui passe entre les deux. Fondue étoile. Le gars des sacs d'argent. Et il s'envole, voilà, il s'envole, il croise des oiseaux, exactement, ça couple avec une licorne, tout ça va bien, change la slide, Anthony, suis, ok, voilà, et ça finit, voilà, ça c'est 3 Oscars, c'est ce qu'on va gagner avec.
Et nous, pendant la présentation, on se regarde fiers de nous là, hein, je crois que c'est bon.
Puis on s'est habillé pareil pour l'occasion. Mais, mais genre, mettons, moi j'ai des chaussures rouges avec des lacets verts. Toi, t'as des chaussures vertes avec des lacets rouges. Puis à la fin, on finit avec du tap dancing. Puis on se rend compte qu'avec des Converse, ça marche pas du tout. Mais heureusement.
On fait le bruit à la bouche.
Exactement.
Écoute, n'en dis pas trop. Parce qu'à chaque fois, on balance.
On donne.
Qui va devenir riche. À notre place, et je l'aurais mauvaise. Bon, Woody Allen, t'as plus rien à dire, à part que c'est génial et qu'il sait pas ce qu'il va faire et ce que ça va donner.
Ben écoute, je pense que série réalisée, écrite, Woody Allen, Amazon.
Et en parlant de série Amazon, j'ai pas encore vu Transparent sur un père transgenre, je sais pas tout quoi. Mais j'ai regardé Mozart in the Jungle. Mm. C'est super bien.
Moi, j'ai checké Mozart in the Jungle.
C'est sur un bout de mozzarella dans.
Ouais. C'est la mozzarella qui est jetée dans une forêt. Puis après ça, tu le vois en...
Arrête.
Non, non, mais dans les télé-shopping, quand il...
Mais si. Il y a pas de mais non.
Dans les télé-shopping, quand ils veulent te vendre un appareil pour cuire des choses et qu'ils te montrent des choses qui cuisent en accéléré, Mr. T, il y en avait un où tu pouvais cuire un poulet en entier et ça faisait super vite. Genre, en 6 secondes, le poulet passait de cru à cuit, tu vois. Genre, wow! Ben, Mozza in the Jungle, c'est ça, avec la mozzarella qui est jetée dans une espèce de ralenti avec des effets de bombe. C'est Tarantino qui a réalisé. De toute façon, c'est ça qui l'a inspiré pour Django Unchained après, les balles qui sont un peu dégueulasses. Et après ça, t'as en accéléré, la mozza, genre, est fraîche, et wow, périmé.
Tout ça pour dire que la série est vraiment bien.
OK.
C'est avec Garcia Bernal et Malcolm McDowell, c'est vraiment, vraiment bien. C'est pas vraiment une comédie à proprement parler, mais c'est sur un orchestre à New York, philharmonique. J'ai rien à dire à part que c'est bien et qu'il faut regarder.
Mmh.
Voilà. Moi, je fais semblant de m'intéresser quand tu fais des blagues sur la mozza et toi, tu me regardes comme si je racontais la pire des merdes au monde.
Non, non, c'est intéressant. Parce que New York, la jungle, donc jungle, la musique classique, Mozart, référence.
Mais quand même. Et si on parlait de Tig Notaro?
Ouais! By the way, ce que tu viens de raconter pourrait tout à fait être un film de Woody Allen, mais soit.
Ben ouais. My point, tu vois. Tig Notaro fait plein de trucs pour le moment. Elle a un film à Sundance et ils ont publié, je ne sais plus quel site a publié, une conversation de plus ou moins une heure avec elle et Sarah Silverman. J'ai pas eu l'occasion de la voir encore parce que ça a été publié hier.
Okay.
Je vais mettre en ligne. Mais elle a un docu qui va arriver sur Showtime le 17 avril. Ça s'appelle Knock Knock, It's Tig Notaro. Où en fait, on l'a suivi pendant sa tournée.
Ok.
Et elle a son premier special sur HBO qui arrive bientôt.
Fantastique. Donc, pour ceux qui ne suivent pas, Tig Notaro, c'est celle qui avait fait parler beaucoup d'elle quand Louis C.K. avait mis une heure de LO dans un comedy club sur son site. C'était la nana qui avait appris qu'elle avait, en fait, avait une année de merde, perdu sa mère, sa femme ou copine, je ne sais pas si elle était mariée. Double ablation des seins
Ouais.
Suite à des cancers. Et qui avait fait un set sur sa. Son actualité, si tu veux, sur comment elle se sentait en ce moment avec son cancer. Ça avait été quelque chose d'assez puissant qui est encore disponible, je crois, pour 5 euros. À moins qu'il...
Pas sur le site de Louis C.K. en tout cas.
Non, mais enfin, tu peux...
Sur iTunes ou quelque chose comme
c'est
ça.
C'est ça.
Il est sur Spotify aussi.
Spotify, YouTube. C'est pas très difficile de trouver du contenu aujourd'hui, donc c'est quelque chose de vachement intéressant.
Dans les gens qu'on aime bien aussi, justement, Sarah Silverman.
Oui.
Qui avait une série sur HBO qui a été... Enfin, un projet qui n'a pas été choisi, mais elle en a un deuxième qui arrive et c'est sur une meuf qui fait une crise à la quarantaine, pardon.
Sarah Silverman qui a donc 52 ans aujourd'hui, c'est ça?
Je ne sais pas.
Je sais pas, elle a plus que 40 quand même, non? On va checker ça en live.
Elle a plus que 40, ouais. Et je l'ai revue dans... J'ai revu aussi le Rose de James Franco.
Parlant de ça.
Parfait, ouais. Ouais, mais je fais des transitions.
J'ai oh oui, appris, non, bon, non, mais ouais. T'es allé à l'école de la radio, toi.
et tout ça pour dire qu'il faut la voir dans ce truc, elle est parfaite. Et ils font beaucoup de vannes sur le fait qu'elle est vieille et qu'elle a un vagin tout sec.
C'est là-dedans qu'ils disent que quelque chose s'était asséché plus vite que le vagin de Sarah Silverman à côté de quelqu'un qui ne peut pas aider sa carrière.
Exactement. Et il y a quand même des sales vannes.
Hein, oui, mais des...
Sur la grand-mère de James Franco, des trucs que j'avais oubliés.
OK. Et mon erreur, elle a 45 ans cette année.
Oh, ça va.
Exactement. Je pensais qu'elle était un peu plus vieille et qu'elle faisait un peu... Mais quand tu regardes des vidéos d'elle il y a 20 ans, elle est... C'est... Voilà. L'âge oublié d'aller frapper à sa porte, quoi. Il y a 20 ans, la même tronche. Non, non, mais tout à fait.
C'est pas plus mal. Et donc, apparemment, là, le projet-là est bien parti, donc ça peut être cool de la voir, enfin. Parce que ça fait longtemps qu'elle a plus fait de série. Ça, Silverman Program, c'était quand même il y a un petit bout de temps. Et donc, voilà.
Et ça nous permet de faire une transition de malade. Exactement. Parce que le prochain roast, pas compliqué, une personne, et puis t'as 10 humoristes qui viennent la dégommer, et puis après ça, la personne a la parole à la fin pour remettre un peu la monnaie de sa pièce. Ça avait l'habitude d'être très violent, voire de plus en plus violent, avec des gens comme Charlie Sheen qui avait été sur le plateau. Et quand c'était James Franco, c'était des potes à James Franco qui l'ont fait, donc pour le coup, tu sentais un retour peut-être de la camaraderie aussi, c'était pas juste...
Et de la soirée où tu bois en costard et c'est plutôt bon enfant malgré les apparences.
Le petit côté un peu Dean Martin qui était de retour. Et là, le prochain qu'ils vont faire, parce qu'il n'y en avait pas eu depuis James Franco, sauf
non, ça va faire bientôt 2 ans.
Justin Bieber.
Mais du coup, je me demande si ça va pas retomber dans les travers des roasts.
Le problème, c'est que Justin Bieber veut qu'on le roaste. Donc, il va faire un peu genre « Ah oui, mais moi aussi, je trouve ça lol. » Ce qui c'était encore une fois dans Kevin and Bean, j'entendais ça, il dit « Le problème, c'est que s'il est in on the joke, il y a moins de chances qu'il pleure, donc il y a moins de chances que moi, je m'amuse en le voyant. »
Ben, je crois que James Franco était pour aussi, non?
Oui, mais James Franco, on l'aime bien. Ouais. C'est pas un douchebag.
Mais moi, je me demande, Justin Bieber, c'est...
Qu'est-ce que tu peux encore dire?
Ce qui va être intéressant, ouais, ce que tu peux encore dire dessus, quoi, parce que des vannes, il y en a eu dessus. Hein.
Mais c'est pour ceux qui se demandent ce que tu peux dire sur lui, qui n'est pas des évidences, je veux dire, ici, on entend un peu moins parler de ses déboires, mais il avait fermé des rues pour courser en Ferrari, jeter des œufs sur la maison de son voisin, pisser dans le bucket pour la mop pour un resto, essayer de se battre avec des gens, se faire gifler par Orlando Bloom. Fallon avait la meilleure vanne du monde, n'empêche, il disait, et genre Orlando Bloom a giflé ou a frappé, c'est ça, a frappé Justin Bieber, et apparemment aujourd'hui il aurait très mal à la main de tous les high fives qu'il a reçus ensuite. Mais Galifianakis l'avait reçu dans Between Two Ferns, et il y avait des punchlines vraiment bien.
Ouais, c'est vrai
bien.
Qu'il avait su faire
parce qu'il ne demande pas à n'importe qui non plus. Hein. Et quand tu vois le nombre d'auteurs, parce que tu vois, il y a une dizaine qui sont là, mais après, quand tu vois la liste des auteurs qui défilent.
Mais il
faut
voir aussi qui sera sur le plateau, quoi. Parce que si tu te retrouves avec des Whitney Cummings et des machins comme ça,
ouais.
Ça va pas voler bien haut, quoi.
Par contre, un bon petit Anthony Jeselnik par-ci.
Ben, surtout que ça fait longtemps qu'on le voit pas.
Ouais.
Depuis que son show est annulé. Ouais.
Ouais. Un de mes préférés, hein. Vraiment un de mes préférés. Et je regardais pendant des gens qui font de la one line pendant la trêve, regardais une série de trucs et je suis retombé sur des trucs de Mitch Hedberg.
Ah ben oui, j'ai vu que t'en as posté quelques-uns.
Oh mon dieu, c'est...
Mais lui aussi, c'est deux specials, Jason Lee qui sont sur Spotify, Mitch Hedberg, je sais pas.
Mitch Hedberg, je sais que tu peux les trouver sur iTunes. Moi, j'avais téléchargé, il y en a trois. Il y en a un qui s'appelle Strategic Grill Location. C'est qu'il y a des gags débiles, des petits gags comme ça. Il dit qu'il y a un pote qui est toujours à la masse. Il dit, si on se fait, genre, il y a une bagnole qui s'arrête, il y a trois personnes armées qui sortent et qui disent « Montez avec nous !» Mon pote, le seul truc qu'il va dire, c'est « Shotgun !» Et donc, « Shotgun », c'est quand tu t'assois à l'avant. Donc, il va s'asseoir à l'avant, je vais faire « I'm sorry, I'm gonna sit back with you terrorists. » Il dit « Last time I called Shotgun, we rented a limo. » So I fucked up.
Et il y a une phrase qui, pour l'instant, elle me reste beaucoup en tête parce qu'elle me fait beaucoup beaucoup rire. Je veux dire quelque chose d'assez extraordinaire. D'ailleurs, les deux derniers SNL, c'était de la merde en boîte.
Ouais. Mais ça parlait d'une bonne saison. Ouais.
Vendu sur des étalages. Ou alors ils ont trop de temps à perdre. Ils préparent leur 40e anniversaire au mois de février. D'ailleurs, il y a une émission le 15 février.
J'ai vu Sia par contre en live où elle chantait de
c'était
face.
Magnifique.
C'était splendide. Hein?
Magnifique.
Elle chante toujours de dos. Genre, oh,
mais elle avait un masque.
Elle avait un masque caché ses yeux, mais on la voit chanter. Puis elle a changé un tout petit peu la version quand elle a fait Chandelier.
Ouais.
C'était avec un mime à côté. Voilà.
Et en parlant de SNL, il y a un livre qui sort chez ta chaîne le mois prochain sur une meuf qui a été dans les coulisses pendant toute la 39e saison. Donc elle a récupéré toutes des photos qui sont quasiment inédites. Plus elle a fait des photos de son côté. Et VH1 fait un marathon et il diffuse les 433. Pendant 433 heures, à partir du 28 janvier, je crois, tous les épisodes à l'envers, enfin, en partant des nouveaux jusqu'au premier, et ça coïncidera avec les 40 ans de...
Holy shit! Il y a eu... Parce que il y a combien d'heures... SNL, ça dure, un épisode dure combien de temps, quand t'enlèves les pubs, ces trucs-là?
1h10, un truc comme ça.
Et il y a eu 40 saisons?
Ouais.
C'est pas beaucoup, 430 heures? Il y a plus que 10...
Ils vont aussi refaire des intégrales, des thématiques. Par exemple, les week-ends, ils vont faire, ils vont diffuser tous les épisodes de Timberlake d'un coup. Enfin, tu vois, ils vont faire des blocs aussi dedans. Donc, à mon avis, je ne sais pas.
C'est pas l'intégrale.
A priori, si, mais après, dedans, ils mélangent. Okay. Enfin,
c'est bizarre.
J'ai pas vraiment les détails.
Je m'attendais à ce que ce soit plus long que 40 saisons. Ça fait 430 heures. Ça fait pas tant que ça, tu vois.
Mais ouais, c'est vrai. C'est peut-être moi qui ai mal noté quelque chose.
Ça fait 11 heures et tu dis qu'une heure 10 par épisode, ça voudrait une moyenne de 8-9 ouais. épisodes à la fois.
Ouais, je sais pas.
Est-ce que regarder juste le moins mauvais?
En tout cas, il n'y a pas les musiques.
Ah, ok, t'as pas les musiques.
Non, ça c'est une question de droit. T'as pas les musiques. C'est pour ça que ça n'existe pas en DVD. À part les premières saisons, parce que ça leur coûte une blinde d'avoir les droits, quoi.
De clearer tout ça.
Et du coup, il suffit qu'il y ait un sketch où il y a une chanson dedans. Il est baqué, quoi. Donc, forcément, ça enlève déjà pas mal de trucs.
Ouais, puis déjà, les deux chansons, il fait combien l'artiste en général? Deux?
Deux. Trois, quand c'est Prince ou McCartney ou les Rolling Stones.
Ou quelqu'un d'autre qui dit « Je vais faire ça. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Les gens font.
Mm-hmm. Et tout ça pour dire que c'était de la merde, mais récemment, dans le dernier épisode, avec le mec qui s'appelle Blake Shelton, je crois, c'est un chanteur de country qui a The Voice.
C'est un des juges, c'est ça, c'est un des quatre jurys de Coach The Voice.
Il y a Colin Jost, qui est le head writer et qui est au Weekend Update, qui a dit « Mardi, c'était la journée internationale du câlin. Papa. » En regardant la caméra. Mais la vanne, elle est parfaite. Enfin, il l'a fait 100 fois mieux que moi. En plus, en anglais, ça passe mieux, mais... Je sais pas, sa tête, elle est toute... On dirait en plus qu'il a une tête d'un peu de bébé, comme ça. Et puis, ça passe à autre chose, mais c'est parfait.
Voilà. Pas beaucoup, pas toujours le plus grand nombre de mots, hein. Car c'est bien foutu. Et parlant de trucs qui sont nickel, parfait, on en a pas reparlé. Si vous aviez eu à le voir, vous l'auriez vu, probablement déjà. Si vous l'avez loupé, c'est pas grave, vous pouvez vous rattraper. Tina Fey, Amy Poehler, le sketch d'intro au Golden Globe.
Moi, j'étais un poil déçu quand même.
Ah oui?
C'était bien, c'était bien, mais c'était pas. Tu sens que c'était la dernière année. Et puis. Enfin, le monologue était bien, mais on les a plus vus après sur la soirée.
Ah, mais moi j'ai juste regardé le monologue de début.
Elles se sont fait écraser par Margaret Cho qui a fait une blague encore sur la Corée du Nord. C'était vraiment.
Ouais, Margaret Cho, elle a pas l'habitude d'être.
D'être drôle.
Non.
Non, ça c'est sûr.
Et voilà, donc c'est à peu près 10 minutes d'intro. Il y a une vanne qui passe pas parce que c'est un truc avec Julia Louis-Dreyfus et je pense que c'est les gens à la réalisation qui ont fucked up.
Qui ont oublié de cuter sur elle.
Pour avoir le bon rythme dans les reaction shots, mais le reste. Quand tu vois quelque chose qui... Chaque punchline passe. Chacune passe. Et elles ont... C'est pas évident. Enfin, les deux se regardent pas. Elles regardent tout droit devant. Elles rigolent pas de leur... T'sais, elles mettent aucun autre rythme que leur jeu. Et il y a blindé de temps de pause. Et arriver à avoir un timing comique de cette manière-là, c'est... Parce que le nombre de présentateurs qui arrivent à deux en disant « Ah, vous êtes très jolie ce soir. Ah, merci. Je vous retournerai bien le compliment, mais j'ai des yeux... » Allez, mais nous ne sommes pas là pour ça. C'est de la merde.
C'est parce qu'elles ont une chimie, elles se connaissent depuis des années. À mon avis, c'est par télépathie.
Elles sont terribles. Et là, il y a eu le premier trailer pour leur prochain film de 20 ans. Tu vois même peut-être une vanne, mais juste le fait de les voir les deux ensemble.
Sisters.
Ah.
Ouais, ça va être bien, ça.
Mais juste, tu sais, si on dit « Salut, j'ai de l'argent. Salut, je suis Tina Fey. Est-ce que je peux l'avoir? » On fait « Oui, voici l'argent. Va faire quelque chose de comique. »
Et en parlant de Tina Fey, il y a le trailer pour sa prochaine série qui sera sur Netflix, qui s'appelle Unbreakable Kimmy Schmidt, où c'est Ellie Kemper, donc la rousse de The Office, qui était dans Bridesmaid aussi, qui quitte une secte souterraine et qui découvre New York et qui décide de rester vivre à New York.
Of course. Encore cette vieille prémisse.
Et c'est vraiment du Tina Fey parce qu'il y a des blagues dans la bande-annonce qui passent juste comme ça à un moment donné. Il y a une journaliste qui est devant le trou dans lequel elle était cachée. Et le bandeau en bas s'est mis une femme blanche a été retrouvée. Et entre parenthèses, en petit, s'est mis une hispanique aussi. Et c'est juste un détail dans la bande-annonce. Ça va être fort.
Mais Tina Fey, je trouve, c'est une des plus fortes pour ne pas souligner sa propre comédie. Elle fait des trucs qu'il a...
Tu peux remater les épisodes de 30 Rock, tu retrouveras toujours des trucs. Hein.
Ah, c'est fait. Alors qu'elle aurait pu essayer d'être plus mainstream, justement, puis de faire... Attention, tout le monde, on va vraiment milker chaque punchline. Et Galifianakis fait ça aussi, comme ça. Il dit des trucs, il les laisse passer, il les explique pas. Il fait, regarde, ça te fait rire, tant mieux, sinon...
Bon, ouais, c'est bien, parce que tu peux revoir après...
Un petit peu plus de profondeur.
Et en parlant de Netflix, ils ont signé, je sais plus si on en avait parlé, un deal avec Adam Sandler. Je pense que c'est 4 ou 6 films. Un truc comme ça.
Ah, c'est beaucoup de films quand même.
Donc, voilà. S'attendre à un peu un paquet de merde.
Mais moi, n'empêche, Adam Sandler m'a déjà. N'importe qui m'a déjà fait rire, j'ai toujours espoir qu'il arrive un moment donné.
Moi aussi, j'ai adoré Adam Sandler, mais.
Quand est-ce qu'il va pouvoir retourner. Tu sais jamais quand est-ce qu'il va pouvoir retourner le coin puis refaire un truc. Tu sais, si Adam Sandler mourait aujourd'hui, on ferait. Personne se dirait genre, ah, putain, tous les bons films qu'on n'aura pas. Mais. On le Robin Williamserait sûrement en ressortant les trucs
de
génie qu'il a fait.
Je pense pas.
Parce qu'il a fait des trucs vraiment très drôles.
Ah ouais, ouais.
Moi, j'ai adoré Happy Gilmore, Billy Madison, même The Wedding Singer, sa chanson.
C'est parfait. Ouais, bref. Et là, son film, le premier, s'appellera Ridiculous Six. Et c'est... une espèce de parodie de Magnificent Seven. Donc c'est un western. Et je vais juste te dire le casting. Il y a Nick Nolte, Taylor Lautner, Danny Trejo, Luke Wilson, Terry Crews, Blake Shelton, Steve Zahn, Chris Parnell, Steve Buscemi, Will Forte, Rob Schneider, évidemment, ouais. Vanilla Ice, John Lovitz, Nick Swartzen, Whitney Cummings, Dan Aykroyd.
Limite, t'as tellement nommé de noms que je suis à genre deux noms d'être vexé de pas avoir été appelé. Ouais.
Ils sont pas dedans. Le journaliste dit, mais il y a sûrement David Spade et Kevin James.
Mais je sais pas, moi j'ai du respect aussi pour un gars qui... Sandler, il fait ce qui l'amuse, t'as l'impression. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression
se faire payer, des vacances par Sony.
Oui, mais...
C'était ça avant.
Mais est-ce qu'il... Il y en a d'autres qui vont essayer de te faire croire que les choses sont ce qu'elles sont pas. Lui, t'as l'impression qu'il fait ça parce que ça l'amuse. Et il a l'air d'être tellement imperméable aux critiques. Va, c'est de la merde. Fait, ben, je vais refaire un autre film qui a encore un truc qui m'amuse.
Dans un palace, tu sais...
Ouais, je sais pas, mais j'ai confiance que tu sais, j'avais quelqu'un qui a un peu perdu sa touche, qui peut revenir. Tu sais, est-ce que tu pensais vraiment revoir Andrew Dice Clay dans des films un peu où il joue non. bien, dans des films un peu sérieux?
Non, c'est vrai.
Comics, c'est aussi un timing. Et à partir du moment où t'as un timing comique, tu peux être un peu out of touch avec certaines références, certains trucs à certains publics, mais la base, c'est comme Eddie Murphy. C'est Eddie Murphy décidé de refaire un stand-up écrit avec les mêmes personnes.
Il veut refaire un stand-up, hein. Il veut là il a sorti une chanson et il a en tête un projet de, si ça peut se faire, c'est ce qu'il aimerait faire en tout cas, de monter sur scène et faire moitié chanson, moitié stand-up, moitié concert, moitié stand-up.
Mais tu vois, encore une fois, des gens pour moi qui m'ont déjà fait rire et qui ont, ça me dérange pas qu'ils se plantent 10 fois si c'est pour avoir un super truc le 11. Je vais pas aller les voir si après 8 fois, tu vois, peut-être attendre un petit peu.
Faudrait qu'ils le fassent maintenant, comme ça ils pourraient revenir sur Bill Cosby.
I put the pills in the people.
Shit, hein, quoi. Il y a encore une nouvelle qui l'a accusé hier. C'est bah, tous les jours, au matin. Sinon, Netflix, ils ont encore plein de projets. Ils font que ça, à mon avis. Ils signent que des bonnes personnes.
C'est vrai qu'ils envoient de l'argent à la face de tout le monde pour l'instant. Ça va bien aller, le business.
Ils ont signé un deal avec les frères Duplass, Marc et Jay Duplass, qui sont deux génies, selon moi, pour 4 films. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Eux, ça n'a pas coûté très cher, ces petits films indépendants.
Mais tu sais, c'est un truc que je commence à entendre. Et même, j'étais dans une... je pourrais en reparler bientôt, ça. J'étais dans une super chouette réunion pour un projet. Et j'ai commencé à entendre aussi des gens... Il y avait plein de gens autour de la table. Et tu as quelqu'un qui faisait un commentaire qui était super pertinent, mais vraiment pertinent. Et le chef autour de la table a fait... Non. Nous, si on finance quelque chose, on s'en mêle pas. On fait confiance à une personne, elle nous livre le produit, on va pas interférer, quoi qu'il arrive. C'est à eux de ça. Et honnêtement, le commentaire était bon.
T'as pleuré?
Non, quasiment. Non, mais le commentaire était bon et ça serait utile de l'avoir malgré tout, mais le simple fait que cette attitude chez des gens qui ont des cordons de la bourse à non. On va pas. Soit on se plante, mais on se plante avec un produit et c'était cool parce que.
Et t'apprends de là, quoi. Tu vois, à partir de là.
Et ce que la personne disait aussi, c'est la seule chose qu'on demande en retour, c'est que tu nous mets pas 15 intermédiaires entre la personne qui crée le produit et nous. Et donc, si on peut suivre, on suit le produit. En gros, on va te laisser faire, faire la personne ce qu'elle veut. Et voilà, j'en reparlerai prochainement, mais ça.
C'est pas con et c'est même surprenant.
Mais je pense que. Le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent produire du contenu, fait aussi en sorte que des producteurs classiques de contenu voient qu'ils peuvent perdre leurs ressources au profit de plus en plus de compétiteurs. Donc, tu dois trouver une façon aussi de faire en sorte que les gens soient bien et qu'ils aient envie de le faire chez toi. Mais on vit une super... Franchement, pour les producteurs, pour les créateurs de contenu, on vit une époque... fantastique. C'est là.
Et même pour les spectateurs, ils se rendent peut-être pas compte parce que les trois quarts téléchargent de toute façon et sans savoir d'où ça vient. Mais au final, ça va finir par se ressentir, je pense, petit à petit, où ça va commencer à voir que les chaînes de télé vont commencer à perdre un peu de leur stature. Et...
Mais ils ont besoin de produire. Je pense, mettons, t'as Netflix en Belgique, t'as la RTBF qui diffuse des séries. Ben, il faut qu'ils proposent des trucs qui sont pas disponibles. Oui, évidemment, t'as les JT, les trucs de sport, mais ta spécificité, t'as de plus en plus de pression. Ça donne rien d'avoir 80 chaînes télé qui diffusent des experts si t'as tous les experts en un clic, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les producteurs aussi locaux. Et puis, même pour aller un peu plus loin, si moi, je fais un truc ici, la chaîne de télé, ça devient son pain et son beurre aussi, les produits locaux, ben, va essayer de les vendre. Donc, non seulement tu as plus de chances peut-être d'intéresser des chaînes locales à faire tes produits, mais tu as peut-être même plus de chances que ça s'exporte après, parce qu'elles ont tout intérêt à les...
C'est leur touche.
Elles vendent. Non, moi, je suis ravi. Ça fait pas longtemps que je suis en Europe, ça fait 11 ans peut-être. Et quand je suis arrivé, je me souviens, j'appelais mes parents avec des cartes d'appel parce que sur Internet, il y avait encore la connexion téléphone, ligne téléphonique.
Ouais.
Et donc, tu dis, en 10-12 ans, le changement est quand même malade.
Ça, c'est sûr. Et pour continuer sur la comédie, les news qui font bien plaisir, il y avait un film qui s'appelle Wet Hot American Summer, qui est un film culte, qui s'était planté à l'époque, qui s'était sorti en 2001. C'est réalisé par David Wayne. Avec un peu la bande de Stella, Showalter, etc.
Aucune idée, aucun des noms que tu viens de nommer.
David Wayne, tu vois c'est qui. Bref, c'est un peu trop long à expliquer, mais tout ça pour dire que le film à l'époque, c'était, ça racontait le dernier jour d'un camp d'été juif. Le dernier jour, il devait faire un petit spectacle, si tu veux.
Okay.
Et plein de gens dedans. Il y avait Amy Poehler, il y avait Ken Marino, il y avait même Bradley Cooper. Enfin, il y avait énormément de monde.
Ok, ouais. Avant qu'il explose.
Ouais. Et ici, Netflix a commandé une suite sous la forme de 8 épisodes.
Nice.
En espèce de mini-série. Et je vais juste te dire le casting. Il y a donc David Wayne, Michael Showalter et Michael Ian Black, forcément. Elizabeth Banks, Bradley Cooper revient, Judah Friedlander, qui était dans Thirty Rock, Janine Garofalo, Ken Marino, David Hyde Pierce, Joe Lotrulio, qui est le comparse de Eddie Samberg dans Brooklyn Nine-Nine.
Ouais, il est top, lui.
Christopher Meloni, qui était déjà donc, de Law and Order, qui était déjà dans le film. Eddie Miles, qui est le head writer de Fallon et qui était déjà dans le film, le petit roux avec ses lunettes.
Ouais.
Amy Poehler, Paul Rudd, Molly Shannon, Michaela Watkins, John Slattery, j'en passe, Lake Bell, Paul Scheer, Robbie Buell.
Tout le monde.
Tout le monde. Mais c'est ça qui est génial, c'est que non seulement Netflix donne l'opportunité de faire une suite, et tout le monde a dit ok, on revient direct. Et là, ils ont commencé le tournage.
Fantastique. Ben, honnêtement, c'est une bonne nouvelle. Je trouve que 2015 s'annonce bien. Je suis ravi que nous soyons de retour, Anthony Mirelli. Et avec ce podcast qui tire à sa fin, est-ce que tu as encore une ou deux petites news en vitesse que tu veux nous donner?
C'est pas des news, mais c'est deux podcasts à écouter en Belgique. Il y a l'équivalent du journal L'Express en Belgique, qui s'appelle le Vif l'Express, et ils ont un podcast, ils ont un magazine culturel qui s'appelle le Focus, et ils font un podcast qui s'appelle le Brawlcast. C'est très très belge.
Oh ouais.
faut s'accrocher au niveau des accents, c'est pire qu'ici. C'est un chouette invité qu'ils ont eu en début d'année. C'est Gilles Morin, qui est producteur au Kings of Comedy Club, qu'on connaît bien, et qui parle justement de sa façon de voir les choses et de ce que c'est de produire des artistes et de mettre en avant des artistes, que ce soit ici et après les amener à Paris, et combien ça coûte et combien de temps ça prend, et de comment ça se passe pour vraiment prendre des initiatives et partir de zéro, parce qu'il est parti de zéro avec cette idée de club et de production. Et c'est super intéressant, ça dure une heure, et c'est aussi intéressant pour les Français de voir comment ça fonctionne. Et dans le deuxième invité, c'était Myriam Leroy, qu'on connaît aussi beaucoup bien, c'est pas
on
un
connaît
mot.
Beaucoup bien,
on connaît beaucoup bien. C'est pas vraiment axé humour, mais elle parle elle a été chroniqueuse dans la nouvelle édition sur Canal+. Elle parle de c'est quoi d'être chroniqueur et d'arriver pour 2 minutes en plein milieu d'une émission, et comment tu te sens et pourquoi tout doit aller très vite et tout doit aller directement droit dans la vanne et tu dois faire rire un public qui n'en a strictement rien à foutre, et c'est quoi cette espèce de pression qu'on te met dessus à force d'avoir une chier de chroniqueur. Donc les deux sont super intéressants, c'est gratos, ça s'appelle Brawlcast, et ça sera sur la page de Golden Moustache.
Fantastique. Terminez-moi avec un petit message pour toujours le podcast Sébastien Marx, on sait qu'il fait le podcast Donc Voilà Quoi, l'américain à Paris. Il y avait
Verino?
Non, Marina Rollman.
Ah, moi j'ai écouté Verino, c'était incroyablement intéressant.
Ok, bon ben Verino, je crois que t'es en deux parties en plus.
En deux parties, ouais.
Et Marina Rollman, une Suissesse dont on a déjà parlé ici dans ce podcast, qui raconte son histoire. Et elle a juste pour, je vais vous donner la ligne. J'ai envoyé un email après pour lui dire, je sais pas si t'as essayé de glisser un bout de spectacle tout mine de rien, ou si pas, il faut que ça soit. À un moment donné, elle dit, non mais tu sais, moi j'ai 26 ans. À tous les 3 mois, je me rends compte que j'étais conne il y a 3 mois. Et tu peux enlever 26 ans, mais t'as à peu près n'importe quel âge, normalement, ça marche. Mais la phrase « j'ai 26 ans, à tous les 3 mois, je me rends compte que j'étais conne il y a 3 mois », toutes les possibilités de à quoi bon essayer de faire quelque chose quand de... enfin bref, j'ai trouvé ça fantastique. Et elle a un côté, elle est très articulée et elle a un espèce de fouillis organisé comme cerveau, et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant à écouter. Mais bon, c'est vrai que dans 3 mois elle va trouver qu'elle est conne.
C'est pas vrai. Elle va regretter le podcast.
Non, c'est des blagues. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. On se revient la semaine prochaine pour le Comedy News Weekly Podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter aussi. Et puis on peut terminer aussi en disant qu'on a, j'ai vu la bande annonce de Chuck Norris qui allait dans l'émission de radio de Cyril Hanouna, et je pense honnêtement que si j'avais pas cette vie, j'aurais pas été là pour vous en parler. J'aurais pas survécu. Il y a 3 de mes vies qui sont mortes en regardant cette horrible bande annonce. Ok, on s'en parle la semaine prochaine.
Ciao ciao.